Non, pas de contrôle, non, rien du tout. Je pensais en avoir à la frontière, là, je pensais en avoir au tunnel, mais non.
Surprise pour les automobilistes venus du nord de l'Italie. Arrivés en France par le tunnel du Mont-Blanc, c'est très facile malgré le coronavirus. Reportage dès le début de ce journal.
Première mesure de prévention dans les établissements scolaires. Les élèves qui ont séjourné en Chine, mais aussi en Lombardie et Vénétie, doivent rester chez eux.
La fronde contre les compteurs Linky, une action collective en justice, vient d'être lancée contre Enedis. Nous irons à Toulouse où certains habitants refusent ces compteurs intelligents envers et contre tout.
Aucun texte à ce jour ne prévoit d'imposer l'installation de cet appareil qui est présenté comme un appareil de comptage, mais qui en réalité est un appareil d'espionnage.
Harvey Weinstein, reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol, mais il échappe à la prison à vie. Le producteur américain sera fixé sur sa peine d'ici 2 semaines.
Et puis une petite commune des Côtes d'Armor privée de réseau téléphonique depuis le début du mois. Pour les habitants les plus âgés, c'est un énorme problème.
Alors si je tombe, j'appelle qui? Je peux pas appeler. Il n'y a rien. Il suffit qu'une fois. Arrivé à 80 ans, il n'y a pas de miracle.
6h01 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zélani.
En Italie, le bilan du coronavirus atteint donc désormais 7 morts, près de 230 personnes contaminées dans le nord du pays. Les habitants restent confinés dans 11 communes.
En France, où officiellement il n'y a plus aucun malade, c'est la vigilance maximum. Pour éviter bien sûr toute contamination avec ce pays frontalier, plusieurs élus des Alpes-Maritimes réclament des contrôles accrus aux frontières.
Mais qu'en est-il sur le terrain? Quand on fait le trajet entre le nord de l'Italie et la France, en passant par le tunnel du Mont-Blanc, on ne peut pas dire qu'on est assailli d'informations, comme l'a constaté Pierre Herbulot.
Les distances de sécurité, la limitation de vitesse, le message diffusé dans toutes les voitures qui empruntent le tunnel du Mont-Blanc ne dit rien sur le coronavirus, ni en allant vers l'Italie, ni même dans l'autre sens, vers la France, ce qui étonne beaucoup Antoine, ce touriste rentre du carnaval de Venise.
Non, pas de contrôle, non, rien du tout. Je pensais en avoir à la frontière, là, je pensais en avoir au tunnel, mais non, rien du tout.
Aucune pancarte, aucun message, pas la moindre bribe d'information sur les symptômes du Covid-19 ou sur son mode de transmission. Rien des deux côtés du tunnel, regrette Dylan qui a passé le week-end à Turin.
Tous les musées à Turin étaient fermés pour le week-end. Tout était fermé. Voilà, c'était vraiment tout fermé. Tous les matchs de foot, ils ont été reportés. Donc je pense qu'ils prennent pas ça non plus à la légère. Quoi. Mais bon, pas à la frontière apparemment.
Le gouvernement a demandé hier soir aux sociétés d'autoroute de mieux communiquer sur le virus. On reste loin d'une frontière hermétique réclamée par certains. Pour l'instant, tout ce qui retient d'éventuels malades de passer en France, ici, c'est un péage.
Bonne route.
À la frontière italienne, Pierre Herbulot, Europe 1.
Pas de contrôle sanitaire aux frontières. En revanche, une importante recommandation pour les enfants. De la crèche jusqu'au lycée, ils doivent rester à la maison s'ils reviennent des zones touchées par le virus.
Oui, une consigne valable pour 5 pays ou régions. La Chine, Singapour, la Corée du Sud et en Italie. Les régions de Lombardie et de Vénétie. Les détails avec Virginie Salmen.
Pas de classe pendant les 14 jours qui suivent le retour de voyage. C'est la recommandation officielle pour les élèves de la maternelle jusqu'au lycée. La raison est simple, il est trop compliqué de faire porter un masque à un enfant pendant toute une journée. Même consigne pour les bébés qui ne doivent donc pas aller en crèche. Pour les adultes, pas de contre-indication formelle. Vous pouvez aller au bureau ou à l'université avec un masque simple, même si les autorités demandent de privilégier le télétravail quand c'est possible. Mais attention, pas de réunion ni d'ascenseur avec des collègues ou de déjeuner à la cantine. Il est également demandé de ne pas aller au restaurant ni au cinéma. Aucune sortie non indispensable, ni d'utiliser les transports en commun. Et bien sûr, prendre sa température 2 fois par jour et dès qu'elle monte, ou si de la toux ou des difficultés à respirer apparaissent, appelez le 15.
Et d'ailleurs, j'attire votre attention, vous êtes vous-même parent d'élèves. Est-ce que pour certains, c'était la reprise hier, certains rentraient de vacances, vous êtes peut-être rentré d'Italie du Nord ou d'une des régions concernées. Qu'est-ce qu'on vous a dit, simplement dans la communication avec l'école, et comment est-ce que vous vous organisez? Parce qu'évidemment, il y a peut-être des difficultés de garde avec ces décisions 39-21 et le hashtag Europe 1.
Et pour éviter les contaminations, dans les pharmacies, c'est la ruée sur les masques. Lequel acheter? Comment le porter? Combien de temps? Les questions ne manquent pas.
Bonjour docteur Pierre Parnex.
Bonjour.
Merci d'être en direct sur Europe 1 avec nous ce matin. Vous êtes médecin de santé publique, hygiéniste hospitalier au CHU de Bordeaux. On va parler justement de ces masques avec vous. Est-ce que les masques tout simples en papier sont efficaces contre le coronavirus?
Alors le masque papier simple, on n'utilise pas. Il y a deux types de masques. Il y a le masque à usage médical ou appelé masque chirurgical qu'on utilise dans les blocs opératoires et qui est efficace et qui est pour le grand public. Et après, il y a un masque plus spécifique et de protection respiratoire qu'on appelle FFP. La traduction française, c'est pièce faciale filtrante. FFP 1, 2 ou 3 de niveau de protection croissante. Ceux-là sont réservés pour les professionnels de santé qui soignent les patients atteints de coronavirus, ils doivent être adaptés à la forme du visage, il faut les ajuster parfaitement à chaque fois, ils sont difficiles de respirer avec, ils sont chers, plus de 2 euros dans le public, et à usage unique, parce qu'ils peuvent être contaminés, il faut les jeter à chaque fois. Donc juste pour les professionnels de santé. Après, c'est le masque à usage médical. Comme vous l'avez parfaitement expliqué, il y a la situation spécifique du coronavirus. On demande aux gens qui reviennent des zones d'exposition à risque de le porter pendant 14 jours. Comme vous l'avez dit, s'ils fréquentent le grand public ou en contact proche à la maison. Et l'autre indication du port du masque chirurgical, c'est si je suis malade, j'ai de la fièvre et je tousse, je peux avoir la grippe en ce moment, le mieux c'est que je reste à la maison comme vous l'avez évoqué. Si je dois sortir, je porte ce masque chirurgical bien ajusté, la barrette nasale posée sur le nez, je mets les attaches auriculaires et je le déploie sous mon menton pour que la bouche soit protégée.
Et alors la tentation, évidemment, on se dit on va peut-être être encore mieux protégé, nous qui ne sommes pas personnel médical, en achetant ces masques encore plus protecteurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez que c'est une bonne idée ou au contraire que ça ne sert à rien ?
Non, le port du masque comme ça en continu n'est pas utile quel qu'il soit. Aujourd'hui, il n'y a pas de circulation du nouveau coronavirus en France, identifié. Donc si on veut se protéger de façon simple, surtout si on est dans des lieux publics, il faut rester à distance plus d'un mètre d'une personne qui tousserait, en particulier si elle ne se protège pas le visage quand elle le fait. Si je suis dans un transport en commun très près, ben je vais me tourner au moins pour ne pas recevoir les particules sur le visage. Et un autre point très important de sécurité, c'est l'hygiène des mains. Donc quand je vais toucher les barres pour me retenir, il ne faut pas que je tombe dans le métro. Quand je sors, que je reviens à l'air libre, je prends ma solution hydroalcoolique dans mon sac, il me désinfecte les mains. Sinon, si j'ai du virus sur les mains et que je me touche la bouche, le nez ou les yeux, je peux me contaminer.
Quelques réflexes aussi avec vous. Merci beaucoup, docteur Pierre Parnex, d'avoir été l'invité sur Europe 1 de ce journal de 6 heures. Médecin de santé publique, je le rappelle, et hygiéniste hospitalier au CHU de Bordeaux. Tiens, est-ce que vous-même, vous avez acheté des masques? Où, quand, comment? Est-ce qu'on vous a expliqué, surtout, aussi bien qu'avec le docteur Pierre Parnex à l'instant? On va mettre ça sur Europe 1.fr. Je pense que c'est d'utilité publique. Vous allez témoigner, là aussi, au 39-21.
Europe 1, il est 6h07.
Le coronavirus, toujours, qui s'invite dans la campagne des municipales à Paris.
Oui, hier matin sur Europe 1, vous l'avez peut-être entendu, Agnès Buzyn, candidate de la majorité et ex-ministre de la Santé, affirmait n'avoir jamais été en contact avec Anne Hidalgo pour préparer la capitale à une possible épidémie.
Il n'y a pas eu de contact avec la mairie de Paris lorsque j'étais au ministère. Nous avons préparé essentiellement le système de santé et sa résilience.
Réponse cinglante d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris et directeur de campagne d'Anne Hidalgo.
Madame Buzyn ment. Elle le dit, je le rappelle, qu'elle n'a eu aucun contact avec la mairie de Paris à ce sujet. Je crois que je la cite quasiment mot pour mot. C'est factuellement faux. Vous en avez la démonstration, puisqu'il y a le courrier de la maire et la réponse que la ministre a faite il y a maintenant plus de 15 jours à la sollicitation initiale. Donc c'était une grave faute politique. Nous sommes prêts, la ville de Paris, à mobiliser les moyens. Pour cela, nous ajusterons le dispositif en temps réel dès que des consignes actualisées viendront du ministre de la Santé, de l'Agence régionale de santé ou de la Direction générale de la Santé. Mais il n'y a en la matière pas de place à la polémique et à ces petites bassesses politiques.
Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris au micro-Europe 1 de Pauline Jacquot.
Vous aurez saisi le ton, l'ambiance. Et après Agnès Buzyn hier, avant Rachida Dati demain, Anne Hidalgo sera l'invitée de Sonia Mabrouk. Ce sera ici tout à l'heure à 8h15. Sa réponse sur Europe 1, bien sûr.
Et la campagne dans la capitale, elle tourne beaucoup aussi autour du thème de la propreté. Paris est peut-être la plus belle ville du monde, mais selon le journal anglais The Guardian, c'est aussi la plus sale d'Europe. Qu'en pensent ses habitants? Réponse avec Yasmina Katou dans le 18e arrondissement.
Là, on est à côté d'un conteneur pour des verres où il y a beaucoup de sacs de poubelle éventrés et également de l'urine.
Devant une poubelle, Emmanuel termine sa cigarette et garde son mégot en main. Presque tous les matins, le Parisien découvre de nouveaux déchets en bas de son immeuble du 18e arrondissement.
Il y a très souvent des groupes de jeunes qui vont boire et qui vont laisser leurs détritus comme ça sur place sans ramasser. Pourtant, il y a une poubelle à 50 mètres, mais ils savent très bien que quelqu'un va venir nettoyer, donc c'est d'incivilité.
Un peu plus bas, dans une rue commerçante, des montagnes d'emballages cartons jetés par les commerces jonchent les trottoirs, des poubelles pleines à ras-bord. Pourtant, les éboueurs sont passés quelques heures plus tôt, mais Étienne assiste parfois à des scènes surprenantes.
Les éboueurs font pas forcément attention non plus. Ici, on les voit passer et parfois, bon, ils prennent les poubelles et il y a des déchets qui restent par terre dans la
rue.
Malgré la saleté, les Parisiens sont constructifs et proposent des solutions. Les idées d'Yveline et Marie.
Asséner des messages de propreté, d'écologie, parce que je crois que ça rentre en fait. Je crois que c'est vraiment un truc qui paye.
Je rentre de Madrid et il y a des équipes là-bas qui tournent la nuit et c'est propre.
Pour ne plus vivre entouré de déchets, Marie propose des opérations de nettoyage avec les habitants des quartiers touchés par la saleté.
Et notez-le, dans quelques minutes, un pas de côté, un peu de poésie autour de la saleté parisienne. Vous dites ça paraît difficile, et bien pourtant c'est possible. Un poète, photographe justement, qui est passionné, qui estime qu'une ville propre c'est une ville qui serait déshabillée, qu'une ville sale c'est une ville bavarde. Il aime ses aspérités dans la ville de Paris, il sera mon invité inattendu dans une dizaine de minutes maintenant.
Et à l'Assemblée, au huitième jour d'examen du projet de loi de la réforme des retraites, le premier article a enfin été voté hier. 70 heures de débat, 2200 amendements, il reste encore 64 articles. Et puis je vous rappelle que le procès des époux Fillon a été renvoyé à demain à cause de la grève des avocats.
Europe 1. Vous allez peut-être vous reconnaître, la fronde contre le compteur intelligent Linky. Alors sans être un frondeur, vous êtes peut-être méfiant. Eh bien cette fronde prend un nouveau tour avec une première action collective pour refuser ce type de compteur. On va en parler dans un instant.
Je me sentais prête à rencontrer quelqu'un à nouveau. Alors je me suis inscrite sur Disons Demain, j'ai entré vélo dans mes centres d'intérêt et voilà Philippe. Depuis, c'est balade tous les week-ends.
Vous aussi, rencontrez des célibataires de plus de 50 ans qui partagent vos centres d'intérêt sur Disons Demain.
Ah, les conditions. Quand petit, vous pouviez aller jouer à condition de ranger votre chambre. Quand on vous disait qu'on réussit dans la vie à condition de bien travailler à l'école. Ou encore, quand une offre incroyable est valable à condition de lire les mentions légales. Là, en tout petit. Non, en fait, les conditions, c'est mieux quand il n'y en a pas.
Pendant les boosters Nissan, oubliez les conditions. Profitez d'une remise boostée de 5 500 € sans condition pour vous offrir toutes les technologies du Nissan Qashqai.
Nissan, innover autrement.
Offre sur Qashqai 9 jusqu'au 29 février. Détails Nissan.fr.
Europe 1, il est 6h12. La suite du journal, Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
C'était d'abord une pétition contre les compteurs Linky, signée par 12 000 personnes, tout de même. C'est désormais une action collective, ce qu'on appelle une class action aux États-Unis, et même peut-être la plus grande jamais lancée en France.
C'est en tout cas ce qu'affirment les deux avocats toulousains qui viennent d'engager cette action collective contre le distributeur d'électricité Enedis, pour faire respecter le droit au refus du petit boîtier vert intelligent, boîtier qui, vous le savez, communique la consommation en temps réel aux fournisseurs. Mais certains craignent à la fois les risques sanitaires et l'utilisation de leurs données personnelles. Reportage de Benjamin Péter dans un immeuble de Toulouse.
C'est vissé, c'est verrouillé ici. Donc le compteur, il ne peut absolument pas être enlevé pour qu'on en mette un autre à la place. C'est ça qu'on a fait.
Son vieux compteur bleu est barricadé. Pas question qu'on lui remplace par un Linky. Tout le reste de l'immeuble est équipé, mais Jacqueline résiste.
Je veux décider si je le veux ou pas. Nous tenons bon. Nous avons été un peu impressionnés par notre bailleur pour que nous enlevions ces barricadages. Et moi, je m'y refuse absolument.
Avec les membres du collectif qu'elle a monté, ils ont tous signé la pétition pour demander à Enedis de respecter leur choix. Devant le refus de la firme, elle a bien l'intention de participer à l'action collective menée par maître Christophe Legvac.
Aucun texte à ce jour ne prévoit d'imposer l'installation de cet appareil qui est présenté comme un appareil de comptage, mais qui en réalité est un appareil d'espionnage, puisqu'il permet de profiler les modes de consommation des foyers et donc de vendre ces informations à des entreprises commerciales.
Il reproche notamment à Enedis des méthodes d'intimidation pour forcer les gens à accepter le remplacement de leur compteur et espère que plusieurs plaignants pourront obtenir la réinstallation d'un compteur à l'ancienne, comme celui de Jacqueline. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Europe 1, il est 6h13.
Et direction maintenant la petite commune de Saint-Étienne-du-Gué de Lille, c'est dans le sud des Côtes d'Armor, pour ceux qui connaissent, où le téléphone ne sonne plus depuis début février.
Et oui, tout ça à cause d'une intervention sur le réseau pour installer la fibre. Quand par miracle, ça sonne enfin, ce n'est toujours pas la bonne personne au bout du fil. Le maire a beau taper du poing sur la table auprès d'Orange, rien n'y fait, la tonalité n'est toujours pas totalement revenue. Écoutez le reportage de Charles Guyard.
J'aurais dit carrément que j'espérais ne pas avoir à leur envoyer un avis d'obsèque.
La hantise du maire Pierre Pichard à prendre le décès de l'un de ses 380 administrés, plutôt anciens, donc dépendants du téléphone fixe. C'est le cas de René Bougot. Il a 80 ans et chez lui, plus aucun appel n'entre ou ne sort depuis le 26 décembre.
Ouais, mais il n'y a rien au bout.
Ah oui, là, vous avez décroché et finalement, moi, ça continue de sonner.
Tout le temps. Alors, si je tombe, j'appelle qui? Je ne peux pas venir. Il n'y a rien. Je vais s'allonger là. Il ne suffit qu'une fois. Arrivé à 80 ans, il n'y a pas de miracle.
Pas de miracle non plus quand on compose le 18, les pompiers. Là, ça ne sonne pas du tout. Ailleurs, cette panne aussi est problématique. Par exemple, au garage du village, le patron, Patrick Lehaut.
On a des clients qui nous disent qu'ils ne peuvent pas nous appeler. Ils se débrouillent ou ils vont ailleurs.
Et la situation a parfois viré au cocasse, notamment à la mairie où Pierre Pichard, le maire, raconte comment il a découvert le problème.
Quand des personnes ont appelé, ils croyaient toujours appeler la voisine. Donc moi, j'ai pris mon téléphone portable et j'ai appelé la fameuse voisine. Et effectivement, ça sonnait bien à la mairie. Il fallait appeler la voisine pour avoir la mairie.
Et pour l'instant, aucune date de retour à la normale n'a été annoncée à l'élu. Saint-Étienne du Gué de Lille, Charles Guyard, Europe 1.
Et puis un grand moment d'émotion hier soir au Staples Center de Los Angeles, la salle des Lakers, où un hommage poignant était rendu au basketteur Kobe Bryant et à sa fille Gianna, décédée dans un accident d'hélicoptère. Sa femme, Vanessa, a pris la parole, Michael Jordan. Ils lui ont rendu évidemment un vibrant hommage. Et puis Alicia Keys aussi, à sa manière, au piano, avec la sonate au clair de lune.
Il y a eu d'autres interventions, j'ai cité Michael Jordan. On va entendre aussi Beyoncé qui chantait sur une autre ambiance, si je peux me permettre. C'était presque plus festif dans cet hommage toujours à Kobe Bryant au Staples Center cette nuit. Merci Hélène Zellani. C'était le journal de 6h à 6h30, un nouveau journal avec Jérôme Lacroix. L'impact du coronavirus sur le commerce mondial, ce sera à la une tout à l'heure. Il est 6h07.